Donc moi je suis Solène Monnier, je suis comédienne et je fais partie de l'association Anagramme. Anagramme, c'est donc une association culturelle qui travaille autour de la littérature, soit sous la forme de théâtre ou de lecture, soit sous la forme d'écriture. Et donc moi j'anime entre autres un atelier de lecture à voix haute. Donc vous avez quelques participantes ici. Et pour la plupart, ça va être leur première lecture en public. Et donc ce que nous allons vous lire, c'est des extraits de textes d'auteurs qui sont invités pour le Printemps du Livre. Donc le Printemps du Livre est organisé par la ville de Grenoble. Et du 13 au 17 avril, il y a donc une trentaine d'auteurs qui vont venir à Grenoble pour des rencontres. Avec le public grenoblois. Et donc nous, on propose des extraits de textes pour vous donner envie de lire les livres ou d'aller rencontrer les auteurs. Voilà. Donc on a choisi, c'est un peu les coups de cœur du groupe. On a choisi différents extraits. Il y a de la poésie, du roman, du récit, un peu de tout. Voilà. Donc pour commencer, vous allez entendre un texte de Dominique Fabre. On en a choisi plusieurs dans son recueil de poésie. Donc le recueil s'intitule « Avant les monstres » et dans chacun de ses poèmes, Dominique Fabre porte un regard sur les autres, un regard fraternel, sur le monde, sur la vie, sur son enfance, voilà. Donc on en a sélectionné, on va vous en lire trois. Okay. On va vous en lire trois,
ça c'est un sur trois.
Okay. Et je pense que vous en avez eu un, et pas les autres. Donc vous en connaissez un, et les autres, vous allez découvrir.
Quand il ne fait plus assez tôt, quand il fait chaud, quand il fait froid, je vais nager, longueur après longueur, la céramique du monde, où vont les vieux poissons, où se cachent les marées et les bulles que je fais. Les bulles de ma respiration sont nombreuses, mais je ne peux guère espérer changer. Je ne saurais devenir autre. Je ne sais plus vraiment. De nombreuses piscines m'ont avalé, de nombreux bains de mer, de nombreux bras aussi. La piscine de la rue David d'Angers, avec son chapiteau de cirque, montant, descendant, et les femmes alanguies du solarium ne me regardent pas couler. Tiens, un marin d'eau folle. Et la piscine d'Anières, où je me cramponnais au bord. Et celle de Manosque, où j'ai failli me terminer m'assommant au poteau pour ne rien gagner du tout. Nager, pour vivre dans un pays qui n'a jamais existé, longtemps et sans accroc.
Donc ensuite, nous allons vous lire un autre texte. C'est un extrait d'un roman qui s'appelle Gadji. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est Rome. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez eu celui-là.
Ça commence par « Vous avez rendez-vous que vous attendez ».
Ouais, c'est celui-là. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Katharina et qui est donc Rome. Et ça se situe au début du roman à peu près. Hein. Dans le début du...
Oui.
Premier tiers. Voilà.
Donc elle raconte son bonheur de découvrir les apprentissages, la lecture et les livres.
Quel est le titre du roman?
C'est Gadji. Ah, et l'auteur, Lucy Land.
Nous avions rendez-vous tous les après-midi. L'accord s'était conclu sans qu'aucun mot soit échangé. Sous ça, m'apprenait à lire et à écrire en roumain et en français. maman. C'est le premier mot que j'ai écrit sans rature et sans tremblement. Vite, il fallait que ça aille plus vite que la musique. Sur l'ardoise, j'essuyais sans arrêt le calcaire de mon avant-bras furieux. Zouza guidait mon poignet et ne s'affolait pas plus que ça. Je choisissais ensuite un livre au hasard dans ses piles et elle m'en lisait un morceau. L'assemblage des mots inventait des vies alors inconnues. Vie de chuchotements, de fonds marins, de coups de foudre sur le Nil, de châteaux hantés, de plumes magiques et de montgolfières. Au mur, elle avait accroché des photos de tous les monuments qu'elle aurait aimé visiter. Le Taj Mahal, la Sagrada Familia, le Colisée, la Tour Eiffel, Big Ben, Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue. J'ai su plus tard qu'elle n'avait jamais obtenu de visa pour sortir du pays dans lequel elle était entrée par effraction. Elle aimait par-dessus tout Sartre, Solzhenitsyn et Blaga, des livres qu'elle cachait sous son matelas et ne montrait à personne, sauf à moi. Ces vieilles années ne lui faisaient pas peur, dans un sens ça simplifiait les choses. Elle n'aurait jamais pensé arriver jusque-là, elle ne râlait pas, s'endormait tranquillement chaque soir, et puis tiens, encore un matin, je prends, merci. Comme elle, je prenais tout sans pinailler. C'était le temps des coquelicots, le temps des moissons. Les petits paysans du coin n'allaient plus à l'école. Je trompais mon monde depuis 4 mois. Mon père était parti, revenu, reparti, les cours de musique capotaient. J'avais pris une bonne avance sur les frangins. Je riais sous cap, redoutant et espérant que la vérité éclate. Ma mère me croyait avec mes frères que je n'abandonnais à la décharge qu'après m'être assurée qu'ils vaquaient bien à leurs jeux de mots. À cela, je racontais que j'allais voir Ciavolo, le fils de Marcello, ne doutant pas que ce mensonge serait répété et qu'il satisferait ma mère au-delà de ses espérances. Elle adorait Ciavolo, un petit gars de 12 ans, constant et réfléchi, tout l'inverse de mon père. Dans les environs, elle n'envisageait personne d'autre que lui pour moi, plus tard. Mais Gino, le perspicace, Ada, l'instinctive, et Ramsès, le rusé, pour n'en citer que 3, commençaient à se méfier. Et ma mère, à nouveau. « Katharina, viens m'aider !» Ça ne manquait jamais. « Fous-moi la paix !» J'avais envie d'hurler. J'ignorais ses appels, et troublée un instant, je poursuivais mes lectures. Chaque phrase que j'arrivais tant bien que mal à déchiffrer me laissait espérer qu'un jour, être homme serait synonyme d'être humain. Zouza m'apprenait aussi quelques mots de Roumanie. Langue qu'elle me disait avoir apprise au fil du temps. Pour le plaisir, pour sa beauté. Zouza m'avait dit. Un jour, Katharina, tu pourras discuter avec des Roms de Chile ou d'Angleterre. N'oublie pas la langue romani. Chante-la, parle-la. Tu retrouveras toutes tes phrases éparpillées aux 4 coins du monde. Ton histoire. Vous êtes au moins 12 millions dans le monde, vous les Roms. Résonnent encore les paroles de Zouza. Il y a des phrases qui restent. Était-ce possible? Et comment que je les reconnaîtrais, moi?
Je laisse à nouveau la parole à Dominica qui va vous lire un autre poème de Dominica. Donc toujours tiré du recueil Avant les monstres.
Essayez de vous concentrer sur elle, plus que sur votre papier.
Excusez-moi pour cet intermède.
Un jour, je devais avoir 12 ans, j'ai vu deux couples sur un trottoir d'Asnières. Des gens à qui je donnerais la trentaine. Ils discutaient, ils étaient beaux. Je ne me suis pas demandé ce qu'ils pouvaient bien faire par ici. Je me rappelle seulement du bonheur que j'ai ressenti. Parce qu'aussitôt, je me suis dit, un jour, je serai comme eux. Je rirai sur un trottoir, sur n'importe quel trottoir. Une femme brune m'accompagnera et plus rien ne pourra m'arriver. Je marchais lentement, retardant le moment où je les dépasserais. Arrivé presque à leur hauteur, j'ai dû refaire les lacets. Un type, surtout, reste dans ma mémoire. Un grand type. Ses yeux étaient très bleus. Il fumait un cigare qu'il tenait entre le majeur et l'index. Comme le ferait un homme riche, amateur de cigares, vous dévisageant pour la vie sur une photo de magazine. Une femme brune le regardait, appuyée contre lui. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Ce que je voulais, c'était seulement les voir de plus près, cette femme brune et lui, tout ce bonheur que j'aurais quand je serai grand. Il me suffisait d'attendre. J'ai terminé de lacer mes chaussures et je suis partie. Je les ai trouvés beaux comme mon avenir. Je suis passée entre eux en murmurant pardon. Ensuite, j'ai pressé le pas. J'ai foncé jusqu'à la gare de Bois-Colombes. J'ai regardé les trains du sommet du pont, les oranges et blancs à deux étages, les bleus et gris qui allaient et venaient entre la banlieue et Saint-Lazare. Il me suffisait d'attendre. Et quand je ressemblerai à eux, je serai loin d'ici et je connaîtrai le bonheur. Tard dans ma vie, je n'ai jamais changé d'avis.
Donc ensuite, nous allons complètement changer de sujet puisque nous partons avec Marie Cosnet dans un tribunal. En fait, elle a écrit un témoignage qui s'appelle « Entre chagrin et néant » où elle a recueilli donc les paroles, les dires de délibération et de procès qui ont lieu pour les étrangers, qui concernent les étrangers qui souhaitent quitter la France et qui n'ont pas de papier en règle. Donc ces étrangers qui sont arrêtés en France et qui passent devant un tribunal pour décider de leur mise en liberté ou de leur placement en centre de rétention. Voilà. Donc on va vous lire deux passages. Le roman est très instructif. Il est constitué de différents récits comme ça. Allez-y, installez-vous. Pas de problème, on est entre deux textes. Alors... Voilà, donc le livre est constitué de différents récits qu'elle a recueillis, puisqu'elle-même a assisté pendant des mois et des mois à ces différents procès, et elle a constitué un livre qui retranscrit ce qui se passe aujourd'hui dans ces procès et ce qui se passe pour les étrangers quand ils sont arrêtés en France. Voilà.
Monsieur X, Gabonais, réfugié politique vivant depuis de longues années en Finlande, a une aventure amoureuse extra-conjugale et vient passer avec son ami quelques jours à Madrid dans l'appartement qu'il a acheté pour sa fille bientôt majeure. Monsieur X est arrêté alors qu'après une promenade non loin de la frontière française, il rejoignait Madrid afin de prendre son avion pour Helsinki. Dans son sac, son billet d'avion. Mais le titre de séjour et d'asile délivré par la Finlande, titre qui l'autorise à se déplacer en Europe, il l'a laissé par mégarde et optimisme dans l'appartement de Madrid. Il a avec lui une carte correspondant à une carte de sécurité sociale. Il ne peut être en possession de cette carte que s'il a effectivement le statut de réfugié politique. Malgré la présentation de ce document, malgré la preuve apportée par le billet d'avion qu'il s'apprêtait à quitter la France, il est placé en centre de rétention. Aujourd'hui, il passe pour la première fois, soit 48 heures après son arrestation, devant la juge. Il s'explique, donne des numéros de téléphone. Quelqu'un peut à Madrid récupérer son titre de réfugié dans l'appartement. Quelqu'un, qu'il nomme, peut d'Helsinki faxer le papier qu'il faut, apporter les justificatifs nécessaires en anglais ou avec traduction assermentée. Malgré cela, Monsieur X ne sera pas au travail lundi. Il faut attendre que la Finlande le réadmette, ce qui ne saurait tarder, dit-on. Sa rétention est prolongée de 15 jours. Monsieur X s'énerve. Il insulte juges, policiers, France, dit qu'en Allemagne, il n'a jamais connu ce problème. Il revient sur son escapade amoureuse. Que penseront les parents de la jeune fille? Que pensera-t-elle elle-même quand elle le sera enfermée dans un centre? Un centre de rétention? Personne ne sait ce que c'est. C'est une prison. Et le bon sens collectif pense que pour y être, il faut avoir commis quelques délits. On aura beau expliquer, les gens resteront sceptiques. Le monsieur gabonais de Finlande crie
« Vous créez le racisme. C'est ainsi que les gens croient. Vont croire que les étrangers présents sur le territoire français sont des délinquants. »
On lui demande de se calmer. Sa jeune avocate s'énerve à son tour et parle toute seule. Tant pis pour lui, dans sa situation, il faut apprendre à gérer ses émotions.
Donc toujours le même ouvrage, mais un second passage.
Monsieur Belawel, né en 1984 à Casablanca, contrôlé en gare d'Irund. Le train venait de Bordeaux. Vous avez présenté votre passeport, mais vous n'aviez pas de visa en cours de validité. Votre dernier visa Schengen n'est plus valable depuis octobre 2007. Vous avez été remis aux policiers français puisque vous veniez de France. Vous avez expliqué que vous alliez à Valence chez votre sœur, mais je n'ai pas bien compris.
J'avais des problèmes d'argent.
En février 2007, vous êtes mariée. Aujourd'hui, votre épouse a entamé une procédure de divorce et elle a déclaré en avril 2008 que vous aviez quitté le domicile conjugal. Depuis, où vivez-vous ?
Je n'étais pas d'accord avec le divorce.
Ça, monsieur, ce sont vos affaires.
J'allais demander à ma sœur de prendre un avocat.
Mais votre visa est expiré.
J'avais des problèmes pour le renouvellement, pour payer les timbres.
Bien. Bon. Moi, de toute façon, je ne vois pas comment vous allez vous sortir de cette histoire. Vous n'avez pas de visa et il n'est pas prévu qu'on vous en délivre un. Depuis février, vous n'avez pas fait renouveler vos papiers. Il faut vous bouger un peu.
Mais le récépissé, il est encore bon.
Et le passeport, il est périmé depuis... Non, il n'est pas périmé. Il reste 2 mois. Je note qu'on est dans le plus grand flou à propos des pièces, des récépissés, valant ou ne valant pas titre de séjour, périmé ou non. Les avocats, eux, maîtrisent la situation ?
Le jeune homme sort de sa chemise des pièces justificatives. Un contrat formation, une attestation de domicile. L'avocate les montre à la juge.
Les documents sont arrivés à midi. C'est la CIMAC qui les a reçus. Il voudrait obtenir une assignation à résidence. Il a un passeport, un contrat emploi et formation. Il lui faudrait quelques jours pour préparer ses affaires et son départ de manière correcte. Son cousin se porte garant qui est en situation régulière sur le territoire français.
La juge dicte directement, sans délibération, à la greffière.
Les documents fournis sont insuffisants pour assurer que M. Belawel se conformera à la mesure d'éloignement. Ainsi, il restera au centre de rétention administrative jusqu'au jour du bateau, prévu à 7, le 9 septembre.
Là, il s'agit à l'origine d'un texte écrit pour le jeune public, mais qui est très intéressant parce que pour les adultes, je trouve que ça porte un regard tout aussi intéressant. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rachel et qu'on envoie chez Madame Tréblat, qui est une psychiatre, psychologue, au départ parce qu'elle a des mauvaises notes à l'école. C'est un roman de Raphaël Moussafir qui s'intitule « Du vent dans les mollets ». Et l'extrait que vous allez entendre se passe, c'est une dispute entre les deux jeunes filles qui sont très amies et qui sont en train de jouer à un jeu de société. Elles jouent au Trivial Poursuite.
J'arrête de jouer, Rachel, j'en ai marre.
Marre de quoi?
De ce jeu, Rachel. C'est pour les nuls qui sont des bébés.
Pourquoi tu dis ça? C'est toujours toi qui veux y jouer normalement.
Oh non, mais là je m'emmerde. Je vais aller lire un bon livre toute seule dans la chambre. Amuse-toi bien, petit bébé.
Alors, comme par hasard, Madame Hortense perd et elle arrête de jouer. Parce que tout d'un coup, elle s'emmerde. Et elle trouve que c'est nul comme jeu?
De toute façon, faut pas rêver, ma petite Rachel. Si j'avais eu des questions si fastoches que les tiennes, ça fait déjà bien longtemps que je t'aurais gagné.
Ah oui, tu m'aurais gagné, si t'avais eu mes questions?
Oui, depuis longtemps, ma petite.
Ça fait quoi, Hortense, d'être une sale connasse prétentieuse dans la vie?
Oh, bon, t'excite pas, on va la finir, ta petite partie, si ça peut te faire plaisir. Ma grande. Bon alors, ma petite, c'est toi ou à moi?
À moi.
T'es sûre?
Mais oui!
Ça m'étonnerait. Ça doit être encore une de tes petites tricheries parce que t'en as marre de perdre tout le temps. C'est ça à vous!
Mais non, je te dis! C'est à moi de jouer. Je viens juste de te demander qui avait été sacré empereur en l'année 800.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, je rejoue.
Mais pas du tout, t'as perdu!
J'ai pas perdu du tout, c'est Charlemagne!
Quoi? C'est moi qui t'ai donné la réponse parce que tu savais pas!
N'importe quoi, je le savais! Faut quand même être un petit peu nul pour pas savoir ça! À moins que ça plaît Rachel! Mais bon, allez, vas-y! Je joue, c'est pas grave! Et puis pour une fois, si ça peut te faire plaisir de gagner en trichant un peu, de toute façon. Avec les parents que t'as, pas étonnant que tu perdes au Trivial.
Pourquoi?
T'es pas au courant?
Non.
C'est des ploucs de la droite.
C'est quoi, des ploucs de la droite?
Bah, des gens totalement incultes.
Qui t'a dit ça?
Bah, j'ai entendu Liliane dire ça à maman, à la rédaction.
Pourquoi?
Bah, parce que, figure-toi, ils ne pensent qu'à gagner des millions au lieu de réfléchir intellectuellement.
Ah oui? Mais alors, tes parents aussi, c'est des ploucs?
Non, parce qu'ils sont écrivains.
Oui? Mais je croyais qu'ils avaient un château.
Ouais, bah, mais ça n'a rien à voir avec tes parents. Nous, c'est une ancienne maison. Vous, votre maison, comme vous êtes juif, hein, bah, vous venez de l'acheter et ça fait très nouveau riche.
Parce que si ça fait longtemps et qu'on n'est pas juif, c'est moins plouc de la droite.
Oui.
Ah, donc votre château, il est de gauche?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il a de mieux qu'une maison de droite alors?
Bah, justement, il est de gauche.
Mais qu'est-ce que ça veut dire de gauche?
Je sais pas trop.
L'échec, c'est nous.
Le soir, je suis allée demander à maman comment faire pour que notre maison soit de gauche.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une maison de gauche, ma chérie?
C'est un château de catholique écrivain.
Et alors?
Et alors, nous, on est de droite.
Qui t'a dit ça?
Hortense, qui a entendu Liliane le dire à sa mère à la rédaction.
Eh bien, tu diras à Liliane, Hortense et sa mère qu'avant qu'elles n'édictent leur traité du bon socialiste, nous pensions être de gauche, mais que maintenant, nous ne sommes plus sûrs de rien, puisque nous sommes d'astrogrossistes juifs.
Je ne comprends pas.
Oh, je ne te demande pas de comprendre, hein. Je te demande de transmettre. Tu comprendras bien assez tôt. Et pour finir, vous allez entendre un dernier texte de Dominique Fabre, un dernier poème.
Assis sur le bord du tabouret, au perché, au même comptoir, il ne sait pas le jour qu'il est. Si c'est le soleil ou la pluie, est-ce qu'il sait? Il parle à ses mains, il parle à son verre, il constate des anomalies, lui seul peut les déceler, il les garde secrètes. On dirait qu'il va tomber, haut perché, ses yeux voient la chute de haut en bas, ses mains raclent de haut en bas, on le surnomme Lazare. Ne prenons pas pitié de lui, car il ne sait pas qu'il est né, il ne sait pas quelle heure, ni quand il s'en va, ni quand il revient, et quand il ne reviendra pas, est-ce qu'il sait? Parfois, il griffonne dans les marges de ses tickets de PMU, il dessine un monde rayé, des lignes de croix, des lignes de crête, des carrés et des bateaux, il tremble. Sa vie lui dure énormément, comme une journée d'enfant qui se couche tard.
Voilà, bah merci de votre attention. Je voulais remercier Monsieur Moreau, je pense qu'il est là, qui nous a accueillis ce soir dans sa boutique. Et j'ai quelques programmes du printemps du livre, s'il y en a certains qui veulent en emporter, pour connaître un peu les différents temps de rencontre. Et n'hésitez pas à venir voir le site internet d'Anagramme, parce qu'on propose des lectures et des activités tout au long de l'année. Donc, il est sur le blog. Du coup. Merci Agnès.